E-radio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur E-radio. Je suis Victor Oudowski et je suis accompagné de Lucas Vélin pour animer ce nouvel épisode d'Enquête d'Europe, une émission organisée dans le cadre de notre master en sciences politiques de l'Europe à l'Université de Nantes. Cet épisode sera consacré aux élections législatives de septembre dernier en Italie et ses conséquences pour l'Union européenne. En Italie, les élections législatives de septembre dernier font suite à la crise du gouvernement Mario Draghi, qui a vu ce dernier démissionner de ses fonctions et emporter avec lui son gouvernement, très hétérogène d'unité nationale. Et c'est à la suite des nouvelles élections législatives de septembre 2022 que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'un des pays les plus peuplés de l'Union européenne, protagoniste de premier plan depuis le début du processus d'intégration continentale, sera dirigé par une force politique aux origines post-fascistes. La nouvelle coalition victorieuse, qui rassemble 43,8% des suffrages exprimés, est composée essentiellement de trois partis. Forza Italia de Silvio Berlusconi, qui est mort avant-hier, la Lega de Matteo Salvini et Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Le parti de cette dernière étant arrivé largement en tête au sein de la coalition avec 26% des suffrages du scrutin. Meloni prend la tête du nouveau gouvernement formé par la coalition. Dès lors, plusieurs thèmes et problématiques vont être abordés dans cet épisode. Comment qualifier et situer politiquement la nouvelle coalition? Quel bilan tirer pour l'instant de son arrivée au pouvoir 6 mois après? Et quels impacts cette élection a-t-elle en Europe? Sur la guerre en Ukraine, sur une alliance potentielle des extrêmes droites européennes, et ce notamment dans la perspective des élections européennes de l'année prochaine.
Pour aborder toutes ces questions, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Anna Bonaloumé. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez soutenu votre thèse en philosophie à l'ENS Paris et vous êtes désormais une journaliste spécialisée dans la vie politique italienne et européenne. Nous allons commencer dans un premier temps pour situer un peu l'élection, qualifier, savoir un peu situer politiquement cette coalition. On a eu dans les médias au moment de cette élection tout un éventail de qualificatifs pour désigner la nature de cette coalition. Post-fascisme, populisme, extrême droite, droite illibérale, radicale. Concrètement, sur quel thème a fait campagne Meloni et quel est le cœur de son projet de société?
Enquête d'Europe.
Donc, afin de qualifier la coalition au pouvoir, nous pouvons utiliser un terme italien et un terme français. Parce que, alors, il faut se rappeler qu'en Italie, on emploie des termes différents pour qualifier la coalition. C'est-à-dire qu'officiellement, la coalition s'est présentée comme la coalition de droite-centre, donc le centre-droit italien, et tandis qu'en France, dans les pays étrangers, on qualifie cette coalition d'union entre la droite et l'extrême droite. Donc, effectivement, il y a des partis comme la Ligue de Matteo Salvini qui sont qualifiés d'extrême droite et la Frères d'Italie qualifiés également d'extrême droite post-fasciste et puis la droite de Forza Italia de Silvio Berlusconi. Et donc, sur quel sujet Giorgia Meloni a fait campagne? Bon, il a évidemment proposer des actions pour rééquilibrer les prix du gaz elle a proposé d'en discuter au niveau européen et puis elle a fait campagne aussi afin de donner des aides pour répondre aux problèmes de l'inflation, donc l'augmentation des prix, et puis elle a souligné son positionnement du côté des valeurs chrétiennes. Et donc effectivement, elle a réussi à se présenter comme la personne qui allait défendre les valeurs de la famille classique naturelle, comme elle l'affirme, composée par une mère et un père, mais aussi les valeurs de la chrétienté et qui est contre l'invasion de l'immigration et des migrants en fait en Italie. Donc ce sont des sujets dont elle s'est appropriée depuis plusieurs années et sur lesquels elle souligne sa distance par rapport à, par exemple, à la droite plus modérée. Elle avait proposé un thème très intéressant qui avait fait brèche dans le cœur des électeurs, et c'était le blocus naval comme solution pour contrer l'immigration, c'est-à-dire la possibilité de placer de bateaux militaires dans la mer Méditerranée, qui auraient tiré éventuellement sur les bateaux qui essayaient de s'approcher de l'Italie de manière illégale. Et voilà. Ça, c'est un peu, ce sont certains des sujets sur lesquels elle a proposé elle a proposé son programme.
D'accord. Donc, ce qui la différencie, par exemple, si on prend la Lega de Salvini, ce qui la différencie, c'est plus la politique économique que les racines chrétiennes, etc., qu'elle veut.
Non, par rapport à la Ligue, il y a une différence essentielle, c'est-à-dire, c'est les origines de deux partis, en fait. C'est-à-dire que Frères d'Italie est un parti qui est né de l'Alleanza Nazionale, qui était un parti né post-fasciste et qui n'a jamais clairement régné le fascisme jusqu'à juillet-août, au moment de la campagne électorale, où Giorgia Meloni propose une vidéo dans plusieurs langues, notamment le français, l'espagnol et l'anglais, dans laquelle elle dit que pour la droite, le fascisme est un mal, et elle proposera jamais le reniement du fascisme en langue italienne. C'est un détail non négligeable. Donc ça, il y a un peu des origines, et la Ligue du Nord née d'un projet fédéraliste autonomiste, était un parti régional. Il faut se rappeler de ça, donc local, très lié aux régions du nord de l'Italie, qui proposait une autonomie du nord de l'Italie par rapport au reste de l'Italie pour garder les bénéfices des impôts et du travail et des profits des entreprises dans le nord de l'Italie. Donc les origines sont très différentes. Et ensuite, chez la Ligue, il y a eu un discours, la Ligue du Nord, un discours xénophobe à l'égard des immigrés provenant de l'Albanie. À l'époque, au moment où les partis communistes, suite à la chute du parti communiste et donc à la fin du régime communiste, il y a un certain nombre d'immigrants qui quittent l'Albanie et qui tentent de rejoindre l'Italie. Et c'est à ce moment-là que le discours xénophobe prend forme.
D'accord, merci beaucoup. Du coup, pour l'instant, au niveau de l'action, quel bilan peut-on tirer de ces 6 mois? Quelles sont les réalités concrètes 6 mois après pour l'Italie et les Italiens suite à l'élection de la coalition de Giorgia Meloni?
Oui, alors du point de vue des résultats obtenus par la coalition de Giorgia Meloni, il faut rappeler une chose, c'est-à-dire l'urgence d'obtenir un certain nombre d'aides de la part de l'Union européenne, et dans les cadres notamment du plan de relance, résilience et relance européenne, européen. S'il faut considérer ces activités sur le front économique, on peut observer que, d'un point de vue économique, l'Italie présente une dette hors de contrôle, 2,772 milliards en mois de février, 144% de dette du pays du PIB fin 2022, et une extrême dépendance aux marchés financiers. Et donc, Giorgia Meloni, dans ce contexte, sur le front économique, a dû opérer une conversion européenne forcée. Parce que l'Italie, comme je disais tout à l'heure, a besoin de Bruxelles. Elle a besoin de fonds du plan national de relance et de résilience pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et pour mettre en œuvre un certain nombre de réformes. Je rappelle que le plan national de relance et de résilience est un plan d'aide qui a été créé par l'Union européenne pour faire face aux difficultés des pays suite à la pandémie de Covid-19. Donc c'est un outil européen de relance, de revitalisation économique, mais par rapport à ces plans qui demandaient un certain nombre de réformes, un projet de réforme de la part de l'Italie pour que les fonds soient octroyées. Donc le gouvernement Draghi a respecté les échéances afin d'obtenir les aides, tandis que dans son rapport pour l'Italie de Giorgia Meloni, il y a des difficultés, des retards notamment. Dans son rapport de mars 2023, la Cour des comptes italienne souligne que qu'en fait il y a un certain nombre de problèmes, notamment pour la gestion des projets de réforme. Et donc, il y a des formules instables. En fait, il faudrait davantage de ressources pour gérer le plan de réforme. Donc, en ce qui concerne le PNRR, la troisième tranche d'aide à laquelle l'Italie devrait avoir droit pourrait ne pas être octroyée à l'Italie à cause des retards dans la formulation de plan de réforme de l'Italie. Donc ça, c'est l'aspect le plus important, évidemment, puisque l'Italie a extrêmement besoin de ces aides. Car avec cet argent, elle pourrait restructurer, reformuler un certain nombre d'aspects comme les infrastructures, le système de l'administration publique, voilà, la justice. Il y a un certain nombre de chantiers qu'elle pourrait travailler grâce aux aides de l'Union européenne. Ensuite, Giorgia Meloni s'occupait des nominations politiques au sein de 5 entreprises publiques qui jouent un rôle géopolitique économique majeur. Et il s'agit de, elle a réussi à faire nommer un certain nombre de managers dans les conseils d'administration d'Enel, d'Eni, de Leonardo, de Poste Italiane et de Terna. Ce qui signifie avoir une influence sur les secteurs de la défense, de l'énergie et des transports. Donc, elle a réussi, disons, à avoir une influence sur ses décisions stratégiques, enfin, sur ses décisions industrielles. Sur le front énergétique, l'Italie est en train d'essayer de diversifier ses sources d'énergie. Et donc, aujourd'hui, Il y a effectivement une tentative de se dresser à l'Algérie pour éviter de récupérer le gaz, de importer le gaz de la Russie. Je rappelle que l'Italie et l'Allemagne étaient l'un des plus grands importateurs de gaz avant l'éclatement du conflit en Ukraine. Donc il y a aujourd'hui des rapports, de nouvelles relations, nouvelles anciennes relations avec les pays du Maghreb, et notamment avec l'Algérie, pour créer des collaborations, pour des négociations afin d'obtenir de nouvelles sources de gaz. Puis il y a la question migratoire. Donc ça a été un peu le grand sujet dans les relations France-Italie. Donc la gestion des flux migratoires reste ouverte et des revenus en force dans l'agenda politique de Giorgia Meloni. En fait, après 3 ans de reflux des arrivées, qui est un peu lié à la fermeture des ports, puis à la pandémie, la fermeture des ports de la part de Matteo Salvini en 2018-19, puis à la pandémie de Covid-19, l'Italie a vu arriver sur ses côtes en 105 000 migrants en 2022 et entre le 1er janvier et le 17 avril 2022 et dans la même période cette année, elle a vu tripler le nombre d'arrivées en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, elle a enregistré l'arrivée de 105 000 migrants. Et aujourd'hui, nous enregistrons en Italie un nombre d'arrivées qui a triplé par rapport à l'année dernière dans la période entre le 1er janvier et le 17 avril. Donc il y a un nombre important de migrants qui est en train d'arriver, surtout suite à la crise politique, à l'instabilité politique et économique en Tunisie. Donc il y a une urgence effectivement pour résoudre cette question. Et il y a eu un premier accrochage avec la France juste après l'élection au mois d'octobre dernier. Donc sur le, à cause du nombre de débarquements en Italie de la de l'Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée avec 234 migrants à bord peu après sa prise de fonction, et donc il y a eu un conflit diplomatique lié à ces refus de la part de l'Italie de faire débarquer ces migrants qui ont été ensuite accueillis par la France. Et si on veut voir les résultats donc concernant l'immigration, donc il y a un certain nombre de décrets, lois qui ont permis de changer des règles liées à l'immigration, notamment au mois de février, il y a eu le 9 mars, un décret loi sur l'immigration. Le décret immigration prévoit des peines plus sévères pour les passeurs. Il introduit les délits de mort ou blessures à la suite des crimes d'immigration illégale et accélère l'exécution des décrets d'expulsion et modifie la protection spéciale, c'est-à-dire le permis de séjour pour raisons humanitaires, introduit en 2020 par l'ancienne ministre de l'Intérieur. Donc il s'agit d'un permis de séjour pour raisons humanitaires, en fait. Donc ça a été un peu... Et depuis le 11 avril, Giorgia Meloni a décrété l'état d'urgence. C'est-à-dire, pendant 6 mois, l'État italien aura à disposition 5 millions d'euros pour la gestion des opérations d'identification, d'expulsion et de rapatriement dans une situation exceptionnelle, décrétée comme exceptionnelle.
Ok. Et du coup, pour rebondir, pour maintenant passer un peu plus sur la perspective européenne... de l'arrivée au pouvoir de cette coalition. Ce que vous disiez sur le fait que l'Italie est dépendante sur son plan national de relance et de résilience des fonds de l'UE, puisque c'est, il me semble que c'est 192 milliards d'euros, c'est la plus grande bénéficiaire du plan. Ça vient aussi ajouter au fait que Meloni, sur ces questions-là, a une attitude assez europhile. Ça participe aussi d'un mouvement qu'on constate en Europe où les droites dites extrêmes ou radicales, par exemple comme en Pologne, ne veulent plus sortir de l'UE parce qu'elles ont un avantage économique évident, c'est sont bénéficiaires des fonds un montant élevé. Mais c'est un mouvement global qui veut plus se saisir de l'Union européenne pour la changer de l'intérieur plutôt que la quitter. Et donc, à propos de ça, quel allié potentiel pourrait compter l'Italie dans l'UE actuellement, par exemple ?
Alors, il faut se rappeler que l'Italie, donc la coalition de droite, notamment dirigée par Giorgia Meloni, a nourri des relations très étroites, historiquement, avec Varsovie et Budapest, donc avec la Pologne et l'Hongrie, et cela sur le plan idéologique notamment, et... par rapport à la question, par exemple, de la gestion de l'immigration, donc la fermeture de frontières qui avait été prônée par Viktor Orban, par exemple, et donc la fermeture, la création de murs, mais aussi sur le plan des valeurs et les plans sociétales. Donc, c'est-à-dire toutes les politiques qui mettaient en valeur la famille chrétienne dans un sens chrétien étaient très bien vues par l'Italie de Giorgia Meloni. Donc, ces deux pays de l'Europe de l'Est ont été historiquement ses alliés idéologiques, mais il s'avère que dans les dernières discussions, donc il y a une semaine, les ministres de l'Intérieur européens ont réussi à trouver un accord qui me semblait presque impossible sur la gestion. Il s'agit d'un pacte pour l'asile et les migrants où les 27 ont réussi à trouver un accord à la majorité et qui a en fait un accord qui a été critiqué et refusé par notamment la Pologne et la Hongrie. Pour essayer de comprendre mieux de quoi il s'agit, en fait, c'est un accord absolument nouveau où il est question de l'obligation de solidarité entre les États membres. Dans un cas, par exemple, d'urgence migratoire, d'émergence migratoire, dans un ou plusieurs États de l'Union européenne, à chaque État sera assigné un quota de demandeurs d'asile dont il faudra se charger, en fait. Et les pays, dans ces cas, ils ont deux possibilités, ou bien accueillir les migrants, ou alors, s'ils décident de ne pas les accueillir, de payer une somme de 20 000 euros pour chaque demandeur d'asile. Et cette obligation n'a pas plu à la Pologne et à la Hongrie, qui qui ont déjà affirmé qu'ils ne payeront pas d'argent pour les erreurs des politiques européennes sur l'immigration. Et donc, on observe à quel point, en fait, sur un dossier si délicat et si urgent comme l'immigration pour l'Italie, qui aujourd'hui voit une augmentation des arrivées et qui est peine à gérer ces dossiers toutes seules, au moment où en Europe on arrive à trouver un accord à la majorité, les alliés idéologiques et les alliés, disons, politiques naturels de Giorgia Meloni, donc la Hongrie et la Pologne, refusent de donner leur soutien, leur accord à une obligation de solidarité. Donc évidemment, ils se sont de plus en avance dans les mois de gouvernement de Giorgia Meloni, plus on vérifie quels sont ses véritables alliés. Pour l'instant, en Europe, elle n'a pas vraiment des axes forts, Giorgia Meloni. On peut se rappeler au début de l'année cette réunion organisée par Macron et donc par Scholz et Macron avec Zelensky, le président de l'Ukraine, et qui avait écarté Giorgia Meloni. Et donc vous voyez, il y a quand même une considération de l'Italie au niveau européen et géopolitique qui n'est pas la même par rapport aux années Draghi, où Draghi était considéré vraiment un allié de premier plan de l'Allemagne et de la France dans la gestion de plusieurs dossiers internationaux comme nationaux. Donc voilà. Ça, c'est un peu ce qu'on peut vérifier jusqu'à présent, notamment sur les dossiers les plus délicats, les plus urgents, celui de l'immigration, qui sera sûrement l'objet de la campagne électorale aux prochaines européennes.
D'autant plus, juste pour boucler cette question un peu rapidement, que même dans le trio que vous avez dégagé, Pologne, Hongrie, Italie, elle sera sûrement plus proche de la Pologne eu égard opposition atlantiste qu'elle défend sur l'Ukraine, alors que la Hongrie d'Orban, on le sait, c'est aussi une raison des dissensions entre Pologne et Hongrie. Orban la Hongrie, c'est le seul État réfractaire en Europe sur, l'État vraiment réfractaire sur les aides, etc. Donc, elle sera plus proche idéologiquement, absolument. Même s'il y a la barrière du fait que l'Italie est en bordure et sur les zones extérieures de l'Union européenne, et que donc c'est elle qui subit la pression migratoire, et que même si idéologiquement il y a une alliance Pologne-Italie, dans la réalité matérielle des faits, la Pologne se désolidarise des mécanismes de répartition, etc.
Absolument, oui. Donc effectivement, oui, une chose à évoquer, c'est que à la fin de 2022, dans le mois de décembre, l'Italie, le gouvernement italien, a voté pour un renouvellement des aides à l'Ukraine, des aides militaires à l'Ukraine. Effectivement. Donc, c'est vrai qu'elle a réconfirmé son engagement pro-atlantique, antiste, dans la coalition de la NATO, de l'OTAN, pour soutenir l'Ukraine.
Et on observe ces dernières années en Europe, et plus particulièrement ces derniers mois, un mouvement d'alliance des droites. Cette alliance qu'on constate en Suède, par exemple, avec les mal nommés démocrates de Suède et le parti modéré de centre-droit, ou encore en Espagne avec l'alliance déjà effective dans la région de Castille et León, et sûrement à l'issue des prochaines élections législatives anticipées entre Vox et le Parti Populaire. Dans quelle perspective la coalition victorieuse menée par Madame Meloni, qui comprend un parti d'origine démocrate chrétien comme Forza Italia et Fratelli d'Italia, est-elle selon vous, Madame Bonalume, le symbole de ce nouveau front des droites qu'on voit émerger en Europe?
Sûrement, là, aujourd'hui, le fait pour Giorgia Meloni, frère d'Italie, de faire partie de cette coalition avec, disons, la droite dite modérée de Forza Italia, de Giorgia Meloni, lui permettra d'avoir des discussions, des dialogues avec le Parti Populaire Européen, parce que justement elle est actuellement Tajani, notamment, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui a été le président du Parlement européen par ailleurs, essaie d'être un peu un pont entre Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, et le Parti populaire européen pour essayer de créer cette fameuse coalition avec ce grand groupe des droites et des extrêmes droites européennes. Donc voilà, ça pour parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, Fratelli d'Italia fait partie du groupe des conservateurs et des réformistes européens. Mais l'idée, justement, ça serait de rejoindre le groupe de populaire, le groupe de PPE, guidé par Manfred Weber. Et cette possibilité paraît assez concrète, car...
Des
élections européennes, car l'objectif de Giorgia Meloni est libérer le Parti populaire européen de l'accord traditionnel avec les socialistes, donc le Parti socialiste européen. Et parce que les deux partis aujourd'hui sont les deux partis les plus importants au niveau européen, le PPE, le PSE. Et l'objectif de Meloni est de tenter de construire une alternative qui rassemblerait toutes les droites avec une mission politique qui est, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, déclarée comme étant celle de changer l'Europe de l'intérieur. Donc effectivement, il reste des questions des inconnus, parce que il faudrait savoir qu'en pensent les Polonais, Morawiecki qui est du PIS, qui appartient au groupe conservateur et réformiste, et Donald Tusk, qui sont ces deux figures de la Pologne qui se combattent. Qui est la figure, Donald Tusk, qui est figure de proue du Parti populaire européen, et donc il a été président jusqu'en juin 2022. Il faudra voir si, effectivement, il y a un appui de la part de Tusk et de Morawiecki, parce que la rivalité entre les deux partis auxquels ils appartiennent, au niveau national, en Pologne, est très exacerbée. Et donc, voilà, mais si Giorgia Meloni arrive à mener cette opération, donc cette série de changements internes au sein conservateurs et réformistes européens, elle pourrait amorcer une normalisation des relations avec le PPE et donc elle pourrait réussir à cette fameuse alliance de droite au niveau européen et effectivement changer l'Union européenne.
D'accord. Et ben, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. C'est passé très vite et bien merci beaucoup Madame Bonaloumé pour nous avoir accordé votre expertise sur ce sujet et merci aux techniciens de radio de nous avoir donné la faculté de faire cette émission et d'avoir rendu possible l'émission. Donc merci à tous et puis vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de radio. Merci à tous.
Merci.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.